Salut, c'est Lucie, vous écoutez l'émission d'information locale qui s'apprête à commencer. Et au sommaire aujourd'hui, l'info du jour de l'amiante dans les écoles bretonnes. Deux interviews, d'abord avec le comité brétilien de la Ligue contre le cancer pour annoncer le relais pour la vie. Puis on reçoit Iskis quelques jours avant la marche des fiertés rennaises. Il y aura de la musique dont une nouveauté et puis une recommandation, une discussion pour essayer de faire autrement que de se nourrir des poubelles du capitalisme. Bienvenue dans l'arène.
Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je vais vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Comme chaque jour, on commence avec l'info que j'ai retenue pour vous. Là, c'est l'équipe de la série documentaire « Vert de rage », des enquêtes sur les scandales environnementaux diffusées sur France 5, qui interpelle sur la présence d'amiante dans les écoles françaises. En Bretagne, ce sont au moins 268 écoles qui en contiendraient, soit 37% des établissements pour lesquels on a des chiffres. En s'appuyant d'abord sur une collecte de données qui date de 2016, réalisée par l'Observatoire national de la sécurité et de l'accessibilité des établissements d'enseignement, tout ça complété par les équipes de Vert de rage qui ont travaillé 8 mois sur le sujet. Et ces chiffres, eh bien, ils placent la région Bretagne en tête de classement national. L'amiante, on le rappelle, c'est un minéral qui a été massivement utilisé pour isoler les bâtiments jusqu'en 1997, date de l'interdiction de son utilisation sous Jacques Chirac. Sa toxicité, elle est connue depuis longtemps, particulièrement celle des particules émises au moment d'opérations de désamiantage. Suite au documentaire sur ce sujet, dans le cadre de la troisième saison de Vert de rage, France Info met à disposition un moteur de recherche inédit à voir en ligne sur francetvinfo.fr. L'objectif, c'est de permettre au public de connaître la situation école par école. Par exemple, à Rennes, j'ai relevé une quinzaine d'écoles publiques mais aussi privées où la présence de matériaux amiantés est avérée, tout en précisant que les chiffres là qu'on vient de donner pourraient être sous-estimés puisque, je cite, la majorité des mairies, dont dépendent les écoles élémentaires, n'ont pas répondu à l'enquête. En Bretagne, seules 30 des mairies concernées par le problème l'ont reconnu, mais en tout, 1608 des 2339 écoles bretonnes n'ont tout bonnement pas répondu à la sollicitation des journalistes, avec, selon ces derniers, des emails qui auraient même été envoyés par certains rectorats pour demander au directeur de ne pas répondre aux journalistes. Et alors, est-ce que c'est inquiétant d'un point de vue sanitaire ? Eh bien, l'amiante, elle serait responsable du décès de 70 000 à 100 000 personnes entre 2009 et 2050, avec des développements de cancers du larynx, de l'ovaire ou encore de la plèvre, notamment chez les enseignants. Mais les conséquences pour les plus jeunes sont peu connues, car la maladie, elle arrive plusieurs décennies après l'exposition. Ce qui pêche aujourd'hui, a priori, ce sont surtout les financements pour lancer des travaux de désamiantage. Ça, et une information transparente. Après cette info du jour, c'est l'heure d'une première interview. Arlette de la Marche, bonjour.
Bonjour à vous et merci de m'accueillir.
Je vous présente, vous êtes administratrice et puis secrétaire générale du comité brétilien de la Ligue contre le cancer qui organise son 10e relais pour la vie. C'est samedi 17 et dimanche 18 juin au Pont des Arts, c'est à Cesson-Sévigné, tout près de Rennes. La Ligue contre le cancer, c'est une association bien connue, je pense, des auditeurs qui a été créée au début du 20e siècle. Pour ce qui est du comité d'Ille-et-Vilaine, il ressemble à quoi ? Il a été créé quand ?
Alors, il a été créé il y a environ 35 ans. Il est présidé par M. Patrick Bourguet, piloté par une directrice, Fanny Rowe, et regroupe à peu près une bonne dizaine de personnes salariées et une centaine de bénévoles.
Est-ce qu'il s'agit pour les bénévoles de personnes qui sont engagées parce que soit elles ont souffert d'un cancer ou peut-être ont été proches d'une personne qui est passée par là ?
Très clairement, c'est effectivement la majorité des bénévoles qui viennent nous soutenir dans toutes nos actions.
Si on parle de vos missions à l'échelle départementale, il s'agit déjà de relayer des informations de prévention qui viennent de l'échelon national, d'appeler aux dons pour financer la recherche et puis vous menez des actions qui sont propres à votre comité. Vous accompagnez les personnes qui sont malades avec un lieu ressource ici à Rennes, mais vous avez aussi pensé à aller chercher les personnes qui ne peuvent pas forcément se déplacer jusqu'ici.
Voilà, tout à fait. Donc cette mission, elle est assurée par ce que l'on appelle l'aide aux personnes personnes malades et aux proches, la PMP, qui effectivement propose un dispositif permettant d'assurer gratuitement des soins de support aux malades. Alors, qu'est-ce qu'on entend par soins de support ? Par exemple, la réflexologie plantaire, la sophrologie, des consultations de diététique, des consultations également auprès d'un psychologue.
C'est tout ce qui va viser à améliorer le confort en fait, du patient.
Améliorer le confort, la qualité de vie du patient. Et effectivement, là, depuis un an, on a mis en place un projet qui s'appelle ProxyLeague et qui permet d'assurer gratuitement également la mise à disposition de ces soins à des personnes qui seraient éloignées des centres de santé ou de la métropole en leur proposant justement gratuitement des soins par des prestataires à proximité de leur domicile.
Donc ça se passe près de chez les personnes qui vont pouvoir aller voir ces professionnels là que vous allez évoquer près de chez eux. Et puis il y a donc ce lieu d'accueil ici à Rennes qui est installé rue de la Donnelière, ça s'appelle l'Escale. C'est situé où dans Rennes déjà ? Au nord ?
Alors, c'est situé côté nord de Rennes, on va dire entre Rennes et Saint-Grégoire, à la proximité de Saint-Grégoire et du Leclerc-Clenay, si je peux me permettre.
Bon, on peut le citer, c'est un point de repère dans la ville. Vous teniez à dire justement sur l'aspect prévention, sur l'information que vous relayez, il y a beaucoup de programmes qui existent de la Ligue contre le cancer. L'idée, c'est peut-être aussi d'agir en amont en fait, du cancer pour avoir des bonnes habitudes de vie et réduire certains risques de cancer.
Alors voilà, c'est une de nos grandes missions qui sont développées au sein de la Ligue et bien évidemment au sein du comité. C'est la mission dite prévention qui s'articule essentiellement autour de quatre axes. Encourager les jeunes, et quand je dis les jeunes, c'est les jeunes d'âge scolaire, à adopter très tôt des comportements sains via le développement de ce qu'on appelle les compétences psychosociales. Encourager également les communes à mettre en place des environnements favorables à la santé via par exemple des espaces sans tabac, des zones ombragées. Relayer les grands messages de prévention qui sont diffusés lors des campagnes nationales comme Octobre Rose pour sensibiliser le public au dépistage du cancer du sein, Mars Bleu pour le dépistage du cancer colorectal, et également relayer les informations du programme national Nutrition Santé, à savoir bouger plus et manger mieux. Et le quatrième axe, c'est également de mettre à disposition des professionnels de santé un espace ressource où ils peuvent trouver une documentation très étayée, adaptés et puis différents outils qu'ils peuvent utiliser au quotidien.
Ce relais d'information, ça passe aussi par l'organisation d'événements, de temps forts. Je pense que l'opération la plus connue, c'est sans doute Octobre Rose, ciblée sur le cancer du sein au mois d'octobre. Également, ce relais pour la vie qu'on va annoncer dans un instant. Il y a sans doute aussi d'autres événements en plus de ça, peut-être à des échelles un peu plus modestes qui viennent s'ajouter à la programmation.
À des échelles plus modestes, il y a également ce qu'on fait maintenant, par exemple en janvier, le défi de janvier, Dry January, pour inciter les jeunes à ne pas consommer d'alcool pendant un mois. Il y a le mois sans tabac également. Enfin, on a effectivement d'autres actions qui encouragent les gens à adopter des comportements sains.
Pour redonner quelques chiffres, le cancer, c'est une maladie qui touchera un homme sur deux avant ses 85 ans, une femme sur trois, avec aujourd'hui 60% de guérison grâce au progrès de la médecine, du dépistage et puis de la recherche. Les quatre principaux cancers, ce sont, moi ça m'a surprise, d'abord celui de la prostate, puis le cancer du sein, du côlon et du rectum et enfin des poumons, en lien avec des facteurs génétiques et des facteurs comportementaux et environnementaux. Le surpoids, le tabagisme, l'alcool ou encore l'exposition au radon peuvent jouer dans le développement de cancer. Et le nombre de cas, eh bien, il est en constante augmentation au fil des années. Peut-être juste donner un chiffre à l'échelle de la région Bretagne. Entre 2013 et 2017, en Bretagne, il y a 5303 cas de cancer côté homme et 3782 pour les femmes. Est-ce que cette augmentation du nombre de cancers, qui est la maladie la plus courante aujourd'hui dans nos vies ici en France, ça touche une association comme la Ligue contre le cancer dans les publics qui viennent vous voir, la façon dont on vous sollicite, vous êtes de plus en plus demandé?
Alors, d'une part, parmi les maladies, le cancer, effectivement, c'est parmi les principales maladies chroniques, avec en particulier aussi les maladies cardiovasculaires, c'est à peu près équivalent. Et de fait, nous, on le ressent puisque le public vient nous voir et nous sollicite. et c'est très bien dans la mesure où on cherche à les aider. Après, le Covid est quand même passé par là et on a eu une baisse un tout petit peu de notre consultation par le public au moment de cette période, mais c'est reparti très fortement.
Et notamment avec cet événement auquel on arrive, le Relais pour la vie, c'est la 10e édition. Et ça se passe ce week-end, les 17 et 18 juin, à Cesson-Sévigné, tout près de Rennes. Au cœur de ces deux journées, c'est en fait une course en relais. Ça va ressembler à quoi 24 heures, où donc les participants vont se relayer. Il n'y a pas que des habitants, vous avez sollicité plusieurs
Grâce à notre équipe communication, qu'il faut remercier également, on a fait une diffusion très très large. Je profite aussi que vous me donniez ce micro quand même pour remercier vivement la commune de Cesson-Sévigné qui nous accueille, comme vous l'avez dit, sur ce merveilleux site du parc du Pont des Arts pour la deuxième fois. Ils nous avaient déjà accueillis en 2021. Ils nous aident aussi de manière substantielle quant à l'organisation. Et donc oui, ce relais, on en a fait la diffusion la plus large possible et j'encourage véritablement tout un chacun à venir nous rejoindre pour participer sous quelque forme que ce soit.
On n'est pas obligé de courir si on n'est pas en capacité de le
faire. Exactement, mais aussi éventuellement de nous rejoindre au sein des équipes qui vont ou courir ou marcher, se relayer. Alors, on dit sur 24 heures, après chacun fait ce qu'il peut dans le temps qui lui est possible, etc. Il n'y a évidemment aucune obligation. Et j'ajoute que les gens peuvent aussi s'inscrire à la dernière minute sur le site sur place.
Pour s'inscrire, puisque c'est encore possible, il y a le site internet relaispourlavie.net. On donne les tarifs pour participer. Alors pour les moins de 3 ans, s'il y en a, c'est gratuit. Et ensuite, à partir de 3 ans, le tarif est de 10 euros. Le lancement de la course, ce sera samedi 17 juin à 16h, avec donc un lancement officiel de cette course à laquelle participeront le grand public, mais aussi, j'ai lu, des entreprises du territoire, puis aussi les institutions. Autour de cette course, vous prévoyez des moments festifs le samedi soir et puis le dimanche après-midi.
Alors, comme vous l'avez vu, cette manifestation s'intitule le Relais pour la vie. Et donc, on tient véritablement à ce que ce soit un vrai moment de convivialité, un moment avec des animations où absolument le public de tous les âges, y compris les petits, peuvent venir. Il y a des ateliers maquillage, il y a un magicien qui sera présent sur le site pour animer le relais. Il y a un podium aussi avec différentes animations musicales, de la danse, des ateliers aussi au cours desquels on va présenter de l'activité physique adaptée.
Pour donner un peu le programme, le samedi soir, il y aura un concert plutôt rock avec le Hot Shot Alligator de 20h à 22h30 qui sera suivi d'une cérémonie des Lumières, un temps d'hommage aux patients qui ont souffert ou qui souffrent du cancer. Et puis dimanche 18 juin, deuxième journée du Relais pour la vie, là il se passera pas mal de choses l'après-midi avec un moment gospel sur les coups de 13h en compagnie de l'espace rencontre information du centre Eugène Marquis. Bien connu pour ses actions de lutte contre le cancer. À 15h, les frères Forcini qui seront là pour montrer des arts du cirque. Et à 16h, ce sera le moment du dernier tour et de la clôture de cet événement. Autour du relais de cette programmation culturelle, le public pourra retrouver un village pour s'informer sur le sujet de la lutte contre le cancer et pourra aussi découvrir une exposition inédite qui s'appelle Ressources. Qu'est-ce qu'on va y voir sur ces photographies ?
Alors, ces photographies, en fait, ont été prises au cours de cette année auprès de femmes qui souffraient d'un cancer et qui ont été accompagnées et qui ont participé à 8 ateliers pendant l'année, différents ateliers de soins de support en définitive. Et l'objectif était de voir parmi toutes ces activités, quelles étaient celles qui les avaient le plus aidées. Je parle d'activités, mais c'est aussi le partage également d'expériences avec d'autres patients, etc. Et tout au long de ce parcours, elles ont été filmées par une photographe. Et donc, ces photos sont présentées avec évidemment l'assentiment des patientes sous la forme d'une exposition pendant le relais.
Cette exposition, ça nous amène un peu à l'utilité là, d'un tel événement comme le Relais pour la vie. Parmi les soins de support, il y a l'activité physique adaptée. C'est sur ces ateliers-là que vous souhaitez diriger l'argent que vous allez récolter pendant le week-end.
Voilà, effectivement, si cette opération nous permet de collecter suffisamment d'argent et de faire des bénéfices, le projet est justement de développer et d'aider au financement de l'activité physique adaptée. On sait aujourd'hui que l'activité physique est recommandée à toutes les étapes en fait, de la vie. Avant la maladie, le cancer, puisqu'on en parle aujourd'hui, parce qu'effectivement, de pratiquer très régulièrement, ça peut aller jusqu'à réduire le risque d'apparition de certains cancers, pas tous, mais de certains cancers, de l'ordre de 30 à 50%. Et ensuite, c'est même la Haute Autorité de Santé qui recommande de pratiquer de l'activité physique, aussi surprenant que ça puisse paraître, dès le début de la maladie, dès la mise en route des traitements, alors même que le plus souvent, le patient est extrêmement fatigué. Et donc, il faut savoir qu'on a démontré que cette activité physique va permettre aux patients de mieux tolérer ces traitements. C'est le seul moyen de diminuer sa fatigue pendant les traitements. Ça va diminuer les complications. Et si, puisque c'est très fortement recommandé, il poursuit cette activité physique qui, bien évidemment, doit être adaptée, hein, adaptée quand même à sa condition physique, à son état de santé. J'irais même beaucoup plus loin, je dirais même à ses goûts, parce qu'il faut qu'il trouve quand même un minimum de plaisir dans le cadre de cette activité. Eh bien, s'il poursuit véritablement cette activité physique régulièrement, on a montré que ça permettait de réduire très significativement le risque de récidive et la mortalité dans un grand nombre de cancers. Et là encore, pour certains cancers, ça peut aller de 30 à 50%.
Ma dernière question, c'était de vous demander si ce message, il pouvait être difficile à amener auprès du jeune public que vous visez avec vos actions de prévention dans un monde, là aujourd'hui, qu'on connaît, une société de consommation, où que ce soit dans les médias, sur les réseaux sociaux, le bien manger, le bien bouger, c'est pas forcément les messages qu'on reçoit tout au long de nos journées.
Alors, tout à fait. Ma première remarque serait quand même de bien dire que on a vraiment le souci, puisque là, ça va intéresser, concerner nos équipes de prévention. Notre premier souci, c'est de ne pas stigmatiser et de ne pas être anxiogène dans nos discours. Donc, si on intervient auprès de publics très jeunes pour les sensibiliser justement sur l'intérêt d'une bonne hygiène de vie, on va plutôt non pas intervenir en leur disant « si tu manges mal, si tu n'es pas suffisamment actif, c'est mauvais pour ta santé ». Si tu fumes, c'est mauvais pour ta santé. On va plutôt agir en travaillant avec eux par différents ateliers pour leur apprendre à devenir plus autonomes, à savoir dire non, par exemple si on leur propose une cigarette, etc. Et en définitive, en développant ce que l'on appelle les compétences psychosociales auprès de ces jeunes.
Je vous représente, Arlette Delamarche, vous êtes secrétaire générale du comité brétilien de la Ligue contre le cancer, vous êtes également administratrice. Ligue contre le cancer qui organise son 10e relais pour la vie samedi 17 et dimanche 18 juin au Pont des Arts à Cesson-Sévigné, c'est tout près de Rennes. Durant les 24 heures du relais, on l'a pas dit, mais il y a aussi une œuvre de street art qui sera réalisée sur place. Pour plus d'infos, pour s'inscrire, il y a le site internet liguecancer35.fr et puis relaispourlavie.net si vous souhaitez participer à ce relais, que ce soit en courant, en marchant. Les tarifs vont de la gratuité pour les moins de 3 ans jusqu'à 10 euros. Et il y a aussi la possibilité de faire des dons pour soutenir votre combat. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Everything.
Everything Unspoken par Oscar Lang, une nouveauté musicale sélectionnée par Yann, notre programmateur ici à Canal B. C'est un nouvel extrait de Look Now, un nouvel album à paraître le 21 juillet chez Dirty Heat. Et alors Oscar Lang, eh bien, c'est un jeune compositeur multi-instrumentiste qui est basé à Londres et dont c'est le deuxième disque qui s'apprête à sortir. Vous écoutez Canal B sur le 94.0 ou peut-être en ligne sur notre site canalb.fr et c'est l'heure d'une seconde interview. Emma Guiguin, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous êtes la présidente du centre LGBTI+, Rennais Iskis, LGBTI pour lesbiens, gays, bi, trans et intersexes. Et pour la présentation plus amusante qu'on retrouve en ligne sur le site d'Iskis, vous êtes sorcière à mi-temps et grand-mère à plein temps et ambitionnée de passer votre vie entourée de chats et de livres. C'est toujours ça, hein, c'est d'actualité.
C'est toujours d'actualité.
Ensemble, on annonce la Marche des Fiertés qui est organisée samedi 17 juin sur l'esplanade Charles de Gaulle, ici à Rennes. Alors Iskis, c'est sans doute l'association, je pense, la mieux identifiée sur le sujet des luttes LGBTI+, dans la région de Rennes en tout cas. Vos locaux, ils sont situés rue Saint-Martin, pour ceux qui aimeraient aller y faire un tour. On redit combien vous êtes aujourd'hui, il faut faire la différence entre les membres, les usagers et les adhérents.
Oui, exactement. C'est un peu difficile des fois d'évaluer combien de personnes viennent à Iskis. Alors du coup, pour les adhérents, on a des chiffres, c'est entre 150 et 200 personnes. Mais en vérité, il y a plus de personnes que ça qui fréquentent l'association ou qui nous demandent des conseils par mail ou qui nous rejoignent d'une façon ou d'une autre, parce qu'on en gros, à peu près tous les mercredis, on a une permanence hebdomadaire. Et tous les mercredis, on a à peu près entre 40 minimum, 50, voire 60 à certaines périodes de l'année, personnes qui viennent.
Cette permanence hebdomadaire, c'est le temps fort dans vos semaines au centre LGBTI+, de Rennes. Vous organisez aussi des groupes de parole et puis des propositions plus culturelles. Lorsque je vous ai demandé s'il y avait eu des projets importants dans l'année qui est en train de se terminer, vous souhaitiez évoquer deux ateliers qui ont été lancés durant l'année, justement sur la dimension culturelle.
Oui, du coup, en fait, tous les ateliers qui sont proposés à Iskis sont organisés par des bénévoles. On n'a pas de salariés d'ailleurs à Iskis, pas encore, peut-être ça va venir. Mais du coup, on a un atelier écriture qui a été lancé cette année et un atelier théâtre aussi également. Voilà. Après, on va voir si les personnes qui l'animent vont reprendre pour l'année prochaine, parce que c'est toujours d'année en année. Et il y a aussi des gens qui sont venus nous voir pour l'année suivante pour un atelier danse éventuellement.
Autre projet qui vous tient à cœur, c'est celui de l'intervention en milieu scolaire. Vous avez relancé ce groupe-là cette année et avez donc l'ambition d'aller plus dans les écoles pour parler de ces sujets-là.
Oui, on aimerait d'ailleurs obtenir l'agrément de l'éducation nationale. Du coup, on va travailler là-dessus cet été pour éventuellement l'avoir pour la rentrée. Et du coup, ça nous permettrait d'être mieux référencés auprès de l'éducation nationale, des établissements, pour que ce soit plus facile de nous contacter en fait pour obtenir une intervention en milieu scolaire.
Avant de parler du programme de la Marche des Fiertés, on va parler un peu du contexte politique et social, puisque vous l'évoquez dans le communiqué pour annoncer la Marche des Fiertés du 17 juin. Vous vous y dites inquiet de certains choix politiques et puis évidemment de la montée de l'extrême droite. Sur les choix politiques, vous revenez sur la réforme des retraites qui a été, j'allais dire, adoptée, bon, qui a été passée un peu au forceps.
Alors du coup, sur la réforme des retraites, on pourrait se demander quel rapport entre les luttes LGBTI+ et la réforme des retraites. Et bien en fait, les parcours de vie des personnes LGBTI+ sont souvent marqués par une plus grande précarité que pour les personnes cisgenres et hétérosexuelles. Et ça se traduit notamment par des arrêts de carrière, des refus d'embauche dus à la discrimination, contre lesquels c'est très très dur de faire des recours. Voilà, donc du coup, les parcours professionnels des personnes LGBTI+ sont plus souvent précaires et du coup, elles vont subir cette réforme des retraites de façon plus dure, tout comme les femmes par exemple.
Pour ce qui est de la montée de l'extrême droite, vous souhaitiez parler de cette actualité. Ça s'est passé il y a quelques semaines, le 22 mai, en Touraine. C'est finalement pas si loin que ça de la région Bretagne, où il y a eu une agression quand même violente dont il a finalement peu été question à l'échelle nationale.
Oui, il y a eu peu de réactions au national et peu de soutien politique finalement autre que local. Mais il y a un engin explosif en fait qui a été lancé dans le centre LGBTI+ de Touraine en pleine journée alors que des salariés étaient présents. Je pense qu'on peut parler d'attentat terroriste. En fait, l'auteur a été arrêté. C'est un jeune homme de 17 ans qui appartient au mouvement d'extrême droite. Voilà, donc du coup, on peut parler d'attentat terroriste d'extrême droite.
Il n'y a pas eu blessé, on le précise, et la personne a été interpellée. Je donne un chiffre là au passage, plus 28% d'agressions homophobes et transphobes entre 2021 et 2022, ce qui montre bien que le sujet n'est pas réglé. Est-ce que même dans une ville qui est plutôt queer-friendly, ici à Rennes, ou en tout cas il y a un soutien politique hein, à Volute de la part de la municipalité, vous avez des remontées d'agressions transphobes, homophobes, c'est aussi un sujet dans la région?
Alors du coup, on a toujours des gens qui nous rapportent des histoires d'agression. C'est pas forcément lié à la montée de l'extrême droite pour le moment, mais par exemple à Saint-Senoux récemment, qui est près de Redon, il y a une lecture organisée entre la municipalité, la médiathèque et puis des artistes drag qui a été perturbée par une manifestation d'extrême droite. Donc il y a eu 25 militants d'un groupuscule d'extrême droite qui s'appelle l'Oriflamme, qui est actif à Rennes en ce moment, qui sont venus pour perturber cette lecture, qui ne venait pas du tout de la ville en elle-même, mais qui sont venus spécialement de Rennes pour perturber cette lecture. Et du coup, nous, on craint qu'il y ait d'autres événements perturbés, y compris sur Rennes. Les mouvements d'extrême droite ont l'air de prendre de plus en plus d'assurance dans leurs actions. On sait qu'il y a eu des agressions et des violences à Rennes contre d'autres militants, d'autres causes. Donc, du coup, nous, on reste prudents pour la Marche des Fiertés.
On le redit, ces lectures organisées par des personnes qui sont drag queen ou drag king, ce sont des performances. Il s'agit d'une dimension un peu spectaculaire, de propositions culturelles. J'ai l'impression que la confusion qui est faite, c'est que dès lors qu'il s'agit d'un propos porté par une personne de la communauté LGBTI+, on associe ça à la sexualité et qu'on ne devait pas mettre ces personnes-là, notamment avec un public d'enfants.
Oui, alors que du coup, pour le coup, le thème de cette lecture à Saint-Senoux, c'était l'égalité homme-femme. Du coup, rien à voir avec la sexualité d'une manière ou d'une autre. Mais c'est vrai que dès qu'on est visible, dès qu'on est notamment visible auprès d'un public de mineurs, il y a des accusations, c'est des accusations à peine voilées de pédophilie, hein. Faut pas se cacher, c'est toujours un vieux cliché qui revient, qui est LGBT-phobe, qu'on a tendance à sexualiser plus les personnes LGBTI+, et à leur prêter des intentions
déviantes.
Voilà, exactement.
Il y a une autre menace, si on peut parler de menace, c'est le rejet des personnes trans d'une petite, je précise, d'une petite partie du mouvement féministe, un mouvement féministe qui est pluriel de toute façon. Les femmes trans ne sont pas considérées comme des vraies femmes par ce mouvement qui se dit féministe et sont donc discriminées dans certains lieux, y compris ici à Rennes. C'est un sujet qui doit paraître un peu abstrait pour les auditeurs qui ne sont pas militants. On parle vraiment d'un sujet de débat à l'intérieur de ces communautés-là, féministes et LGBTI+, et qui est sensible.
Oui, c'est un sujet qui est sensible parce que ça divise des luttes qui, de base, on ne connaissait pas cette division avant. Malheureusement, on a aussi nos divisions, on a aussi nos désaccords, même au sein des communautés LGBTI+, et des communautés féministes. Après, je pense qu'une grande partie quand même de la communauté, que ce soit queer ou féministe, s'accorde à dire que les personnes trans ont droit au respect et ont leur place dans nos luttes. Et du coup, la petite minorité qui revendique le contraire, elle est bruyante, certes, des fois, mais elle est vraiment minorité, quoi.
Pour citer un peu l'actualité, si les auditeurs n'en ont pas entendu parler, il y a un bar ici à Rennes dont les positions transphobes, qui ont clairement été mises en lumière d'ailleurs dans un article de Charlie Hebdo que je vous invite à aller lire, ont amené un gros collectif féministe, c'est nous toutes je crois qu'on peut le citer, à boycotter ce lieu. Et donc là, sur l'événement qu'on annonce, la Marche des Fiertés, il y a une association rennaise qui a un local ici, qui se retrouve non autorisée à participer à la Marche des Fiertés pour des positions un peu semblables en fait.
Oui, pour une histoire de discrimination qui a eu lieu sur le village du coup de la marche l'an dernier, et du coup aussi du fait de leur statut associatif qui exclut les femmes transgenres de leur association de personnes lesbiennes, alors qu'il y a des femmes transgenres qui sont lesbiennes. Et du coup, nous, c'est pas en accord avec nos positions à nous. Et comme on est en gros l'organisation qui est coordinatrice de la marche, nous, on veut s'assurer de la sécurité et du bien-être de toutes les personnes, y compris du coup des personnes transgenres, sur la Marche des Fiertés. Ce serait bête d'être discriminée le jour où c'est censé être l'expression de nos droits et de notre fierté, quoi.
On arrive à la 29e édition de la Marche des Fiertés Rennes. C'est la version francisée de la Gay Pride qui est arrivée en France, d'abord à Paris, fin des années 70, et puis 20 ans plus tard en province. Là, on est en 2023, on est 10 ans après le mariage pour tous. Le mot d'ordre que vous avez choisi pour cette édition, c'est LGBTQI+, le Q c'est pour queer, sans frontières, asile pour tous. toutes et tous. C'est en fait en lien avec une actualité politique, puisqu'il y a un projet dans les cartons, un projet de loi immigration, qui a priori devrait être présenté cet été devant l'Assemblée nationale, et ça vous inquiète ?
Oui, alors du coup, nous, on reçoit pas mal de personnes LGBTI+, en demande d'asile dans nos milieux, et spécialement à Iskis. C'est des personnes qui vivent dans une très grande précarité, qui ne sont pas pris en charge par l'État comme ils devraient l'être, selon les textes internationaux qu'on a signés sur le droit d'asile. Du coup, leurs droits sont encore plus menacés là en ce moment à cause de cette loi qui, en gros, est dans la continuité d'une autre loi qui était en 2017, la loi Asile et Immigration. Et voilà, du coup, c'est une loi qui continue cette opposition entre réfugiés et migrants, et qui va encore, par exemple, écourter les délais pour pouvoir faire des recours contre un refus de demande d'asile, qui va encore plus menacer en fait la sécurité des personnes, qui prévoit de rallonger les délais d'emprisonnement. En centre de rétention pour les personnes en demande d'asile qui auraient été déboutées du droit d'asile. Donc voilà, c'est vraiment une loi qui est profondément injuste pour ces personnes qui sont déjà parmi les plus discriminées et parmi les plus précaires de notre société.
Et donc c'est aussi un sujet qui concerne la communauté LGBTI+, et on le dit, il y a chez Iskis un groupe de parole dédié aux demandeurs d'asile. Pour plus d'infos, il y a le site internet iskis.org. Le programme de la journée de samedi, il est chargé. Il y aura d'abord un village associatif à découvrir sur l'esplanade Charles de Gaulle à Rennes. Dès 11h, on a une idée du nombre de structures qui seront présentes et puis des champs qui seront couverts.
Alors, j'ai pas de chiffres en tête, je peux citer quelques assos par-ci par-là. Du coup, on a d'abord des assos LGBTI+, donc du coup, Iskis sera au centre du village, mais il y aura aussi Contact qui sera là, il y aura GLS, Gay and Lesbian Sport. On aura les Pétrolettes qui sont une association de défense des droits des femmes et des minorités sexuelles pour et par les travailleuses du sexe. Il y aura des associations alliées comme Amnesty International aussi. Il y aura des associations comme AIDE qui sont là pour faire du dépistage et de la prévention en santé sexuelle.
AIDE qui supervisera en fait un pôle un peu santé sur ce
village.
Voilà,
exactement. Et voilà, on aura des alliés syndicaux, tout ça. Donc ce sera un grand village associatif.
Et donc tout ce petit monde se retrouvera sur un village jusqu'à 19h30. Et puis il y aura ce temps fort du cortège qui partira sur les coups de 14h de l'esplanade Charles de Gaulle. Vous vous retrouverez dès 13h pour des prises de parole. C'est une marche qui est militante et festive, souvent haute en couleur, avec en fait plusieurs cortèges. Vous nous décrivez un petit peu l'ambiance. Il faut dire que par exemple l'année dernière, il y avait 6000 personnes qui étaient rassemblées. On parle d'un événement important.
Oui, exactement. Ouais. Et ça grandit d'année en année, d'ailleurs. Donc, on ne sait pas à quelle participation on va s'attendre, mais on pense qu'on peut battre la participation de l'année dernière. Et du coup, c'est une ambiance qui est, pour nous, qu'on trouve géniale. C'est à la fois, comme vous dites, militant et festif. Donc, on a une grande partie de la première partie du cortège où on scande des slogans avec des revendications. On a plein de panneaux pour exposer nos revendications aux passants, pour être visible en fait. Et puis derrière, il y a des chars qui diffusent de la musique pour le côté un peu festif.
Il y a une chorale, je crois, qui s'est préparée pour la journée de samedi.
Qui ouvrira juste avant les discours militants. Du coup, il y aura une petite chorale qui ouvrira ça. Donc, ça sera sympa aussi, ça sera convivial.
Le soir, place à la traditionnelle Nose Pride. Rendez-vous à l'étage du Liberté à partir de 22h pour une soirée, on va dire, dance floor avec des DJ sets. Il y aura DJ Nuance, DJ Lose My Shit, DJ Bokota Beat et VG Hop. Il reste des places. On peut encore prendre son billet. Ça se passe plutôt dans votre local chez Iskis ?
Alors, du coup, là, les ventes au local sont fermées parce que la dernière ouverture, c'était mercredi. Mais il reste des places en ligne. Il reste un peu plus d'une centaine de places, si je me souviens bien. Plus, il reste aussi quelques places qu'on vendra sur le village associatif, donc sur le stand de Iskis. Donc,
et les tarifs vont de 7 à 15 euros pour avoir sa place pour la Nose Pride.
Voilà, en ligne, il ne reste plus que les tarifs à 15 euros. Sur le village, il reste toutes sortes de tarifs.
J'aimerais bien terminer en vous demandant des recommandations de choses à lire ou à regarder en lien avec ces luttes queer. Vous avez choisi d'abord de parler d'un documentaire 10 ans après le mariage pour tous. Son titre, c'est La sociologue et l'ourson. Il est question de quoi dans ce film ?
Alors du coup, il est question des débats qui ont ouvert l'adoption du texte de loi pour ouvrir le mariage à tous et à toutes.
Est entre 2012 et 2013 en fait dans le film.
Oui, il est sorti en 2016. Il reprend des images d'archives, par exemple des débats de l'Assemblée nationale. Et du coup, le réalisateur a choisi en fait de parler en fait avec sa mère de ce
Irène
débat.
Irène Théry, qui est sociologue.
Et
qui lui raconte les enjeux de ce débat. C'est un film qu'on peut retrouver en vidéo à la demande sur Internet. La sociologue et l'ourson d'Étienne Chailloux et Mathias Théry.
Allô Mathias.
Allô maman, ça va ?
Je suis dans le métro et j'ai plus que 10% de batterie.
Alors c'est juste pour te dire que ça y est, le film est fini.
Ah c'est super. Ah ça, je vais dire ça à ton père, il va être aux anges.
Et donc maintenant, je peux t'en parler un peu plus.
Ouais.
On a fait une bonne partie du film en utilisant les discussions qu'on a eues tous les deux au téléphone.
Ah bon ?
Ouais. Et ensuite, on a utilisé le son de ces enregistrements et on a recréé des scènes avec des jouets et des peluches.
Ah bon ?
Voilà.
Je me représente même plus quelles étaient nos discussions au téléphone. C'est quand tu me faisais parler de ma famille, non ?
Ouais, quand tu me parlais de ta grand-mère, de ta famille, mais aussi de plein d'autres choses. Des évolutions du mariage, des couples homosexuels, de comment on fait les enfants, surtout quand on n'y arrive pas, de l'évolution des mœurs à travers l'histoire, des mères porteuses. Tout ce que tu m'as raconté, quoi.
Bah, et tout ce que vous avez filmé avec moi ? Vous avez quand même suivi pendant des mois, partout ?
Oui, oui, on te voit aussi en vrai, avec les politiques, dans les manifs, sur les plateaux télé, on va à l'Assemblée, mais aussi à la maison, on voit papa.
Ah là là.
D'ailleurs, moi aussi, je suis devenu une peluche.
Ah bon ?
En gros, on a essayé de comprendre pourquoi tout le monde en France s'est engueulé pendant un an sur le mariage homo.
Mais ne me dis pas que tu es en train de m'enregistrer. Hein. T'as un temps, ça veut dire que je suis sûre que tu m'enregistres.
Et puis, recommandation, là, deux choses à lire. C'est au programme du prochain club lecture du centre LGBTI+, Rennais Iskis. C'est pas directement en lien avec vos luttes, mais quand même, on peut vite y arriver. La panique woke.
Oui, du coup, c'est un livre qui parle, en gros, qui décortique et analyse les mécaniques des mouvements réactionnaires. Donc là, la panique woke, ça fait référence au mot woke qui a été perverti de son sens d'origine pour signifier quelque chose de mal, quelque chose qui va trop loin dans le progressisme, alors que de base, c'était pas du tout le sens de ce mot. Et du coup, ça montre bien que bah, y a un mouvement réactionnaire à chaque mouvement progressiste. Et qui utilise beaucoup des mêmes éléments de langage et qui est repris maintenant de façon très très mainstream parce que bah, par exemple le ministre de l'Éducation nationale a récemment utilisé ce mot pour décrire des mouvements progressistes au sein de l'Éducation nationale.
Un sujet exploré dans cet ouvrage, La panique woke, anatomie d'une offensive réactionnaire, écrit par Alex Maoudo, qui est docteur en sciences politiques. Je vous représente Emma Guiguin, vous êtes la présidente du centre LGBTI+, Rennais Iskis. On le redit pour les auditeurs qui ne connaissent pas le sigle, lesbien, gay, bi, trans, queer et intersexe. Et ensemble, on a donc pu annoncer cette marche des fiertés, 29e édition, qui est organisée samedi 17 juin à partir de la fin de matinée et jusqu'à tard dans la nuit, sur les Esplanade Charles de Gaulle à Rennes en centre-ville et puis à l'étage du Liberté pour la soirée. Pour plus d'infos, il y a le site internet iskis.org et j'imagine que vous êtes présent aussi sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup.
Oui, exactement, sur Facebook et Instagram. Merci à vous.
Des eaux de sèche dans la cage au serin, ici quelqu'un du bien, qui ne s'encombre pas avec le ménage, ni ne s'inquiète de son âge. C'est une dame, je dirais, muette, pâle, toute de manque faite. C'est une dame, je dirais, jolie dame, d'ailleurs il y a de la place dans son cou et son lit. Son lit va pour deux. Je verrai tout à l'heure en ouvrant les placards nourris sans relâche. qu'un jour on a pris le train, qu'on a mis le tout dans les planches. Je sentirai l'humeur du défunt mari dans ses verres, l'aplomb de ses C'est une dame, je dirais, jolie dame. D'ailleurs, il y a de la place dans son cou et son lit. Son livre pour deux. C'est une dame, je dirais, il y a de la place dans son lit. Ici quelqu'un vit bien, qui ne s'encombre pas de l'avenir. Et les tiroirs sont pleins d'allumes, de fils, de souvenirs. De bouchons qui ne vont plus, de couteaux qui pas plus ne serviront. C'est une dame, je dirais, à compter les coups durs et les cons. Des murs. C'est une dame, je dirais, jolie dame. D'ailleurs, il y a de la place dans son cou et son lit. Son livre pour deux. C'est une dame, je dirais, il y a de la place dans son lit.
Bertrand Belin, des eaux de sèche. C'est un morceau extrait de l'album La Perdue qui est sorti en 2007 sur le label Stern. Le deuxième des sept albums créés par l'auteur-compositeur originaire de Concarneau et qui sera, tiens, au Théâtre de la Parcheminerie à Rennes mardi 27 juin pour une soirée entre poésie et musique à l'occasion des 40 ans des éditions POL. Vous êtes dans l'Arène, l'émission d'information locale qui se termine chaque jour avec des conseils de choses à lire, à se mettre dans les oreilles ou à vivre. Et là, je vous recommande une discussion. Il va falloir courir hein, si vous souhaitez assister à cet événement qui se déroule à la Garden Party, boulevard Villebois-Mareuil à Rennes. À 19h, ce lieu agriculturel accueille en effet une discussion que je trouve très intelligente. Se nourrir des poubelles du capitalisme, comment faire autrement? C'est le titre du rendez-vous. Face à la précarité galopante, de plus en plus de personnes survivent grâce aux distributions alimentaires, distributions gérées par des associations qui sont nombreuses à Rennes et qui s'appuient sur les déchets, entre guillemets, de la grande distribution. Dans un contexte de surconsommation et de gaspillage, vous ne me contredirez pas. Heureusement, des solutions existent pour choisir ce qu'on mange et ne pas dépendre uniquement de produits de mauvaise qualité. Il sera question de sécurité sociale alimentaire, d'épicerie collaborative et d'auto-organisation. Une discussion qui est organisée dans le cadre de Bienvenue en Transition, un événement de la Maison de la Consommation et de l'Environnement, avec ce jeudi donc la participation de la cantine Quartier Gourmand, de l'épicerie Brésicop, de l'association VRAC, ou encore de la ferme Permagraine. Tiens, on avait rencontré VRAC. Rappelez-vous, Clotilde, volontaire en service civique, les avait suivis en reportage au printemps 2021.
Anaïs Morquet, j'ai travaillé pendant quelques années dans la gestion de projet et récemment je me suis reconvertie pour monter le projet VRAC. Donc VRAC, c'est une association qui existe au national, qui est née à Lyon en 2014. Et donc, nous, ici à Rennes, on vient d'ouvrir un groupement VRAC l'année dernière, donc en décembre dernier, en 2020. Donc VRAC, ça veut dire vers un réseau d'achat en commun. Et en fait, l'association, elle propose de développer des groupements d'achat de produits du quotidien pour et par des habitants dans les quartiers prioritaires de différentes villes. Et donc, l'objectif, c'est de rendre accessible des produits de qualité. Donc, quand on dit qualité, ici, on a plutôt des produits biologiques hein, qui coûtent assez cher en grande surface ou en magasin spécialisé. On a des produits locaux. Voilà, le but, c'est vraiment d'acheter en grosse quantité pour jouer sur les volumes. On achète aussi un maximum sans emballage. Hein, donc, ça va être plutôt la farine. Elle nous arrive en 25 kilos, le couscous, les pois cassés. Voilà, c'est des gros conditionnements. Tout ce qui va être produit d'hygiène et d'entretien aussi. Donc, on est plutôt sur des conditionnements de 5 litres. Et voilà. Et après, les adhérents, quand ils viennent, ils précommandent. C'est une seule fois par mois. Ils précommandent environ 8 jours avant une distribution. Et le jour même, on leur demande de venir avec leur contenant. Donc voilà, il y a aussi un effet... on travaille en tout cas sur l'axe environnemental un maximum.
Rennes, c'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h et puis en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour les podcasts, ça se passe sur le site canalb.fr. Je vous dis à très bientôt sur Canal B.